Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le romancier français Nicolas Beuglé.
Il y a une règle que je m'impose à chaque fois, c'est que je déteste les thrillers ou les histoires, quelles qu'elles soient, où on me pose une grande question, on m'apporte pas de réponse à la fin, où on me dit la réponse est en toi. C'est terrible ça, c'est avec ces grands enjeux. Donc je ne commence jamais un livre sans avoir la fin, et si la fin me paraît bonne, satisfaisante, enthousiasmante, elle va dicter tout le livre et je vais commencer le livre. Parce que je sais qu'au début je vais poser des questions, si possible des grosses questions, et je veux qu'à la fin vous ayez cette satisfaction. Peut-être que c'est ça qui rend heureux, c'est qu'à la fin il y a une boucle, c'est qu'on se dit au moins j'aime ou j'aime pas, mais au moins j'ai mes réponses et je repars avec mon petit bagage et je vais pouvoir en faire quelque chose.
En 4 ans à peine, Nicolas Beuglé est devenu la nouvelle sensation du polar français en vendant plus de 800 000 exemplaires de sa trilogie consacrée à l'inspectrice norvégienne Sarah Geringen. Il lui fait aujourd'hui une infidélité avec Grace Campbell, l'héroïne de son nouveau roman Le Dernier Message, qui vient de paraître chez Ixo. Grace, c'est une flic écossaise qui, après avoir été mise au placard par sa hiérarchie, est envoyée enquêter sur le meurtre de l'un des pensionnaires d'un monastère tout droit sorti du nom de la Rose. Nicolas Beuglé a le chic pour construire des intrigues machiavéliques où la science et nos peurs les plus irrationnelles se mêlent de manière étonnante. Ancien journaliste à la télévision, Nicolas Beuglé a mis plusieurs années et un burn-out au passage pour se consacrer à l'écriture. Je l'ai retrouvé chez son éditeur pour un entretien sans tabou, à l'heure où l'actualité semble chaque jour dépasser un peu plus la fiction.
Bonjour Nicolas Beuglé.
Bonjour.
Ça va bien ?
Bah oui.
dans une France propice à la lecture, j'ai envie de dire, en ce moment, non ?
Alors, oui, et en tout cas c'est ce qu'on souhaite, et d'ailleurs ça a l'air de pas mal fonctionner, d'après ce que j'ai vu, même en Europe, les chiffres de vente de livres ont l'air de monter, donc nous on était tous inquiets en tant qu'auteurs, et puis finalement ça a l'air d'être un bon remplacement au moment peut-être de, pas d'ennui, mais on va dire de temps libre qu'on a un peu en ce moment.
C'est-à-dire que le livre c'est devenu un refuge hein?
Je pense qu'on a redécouvert que la série télé, au bout d'un moment, ça faisait mal à la tête, peut-être, ouais. Ou que ça commençait à nous saturer et qu'on avait et que ça nous faisait pas le même effet qu'un livre en termes d'évasion, parce que voilà, on construit jamais aussi bien un univers imaginaire que nous-mêmes sans qu'on nous l'impose avec l'image. Et cet univers imaginaire, à travers la lecture, forcément, il est suggéré et on se le crée, on se le fabrique et surtout on se le rejoue autant qu'on veut avec nos propres décors, nos propres comédiens, nos propres émotions. Ça, c'est quelque chose moi qui m'a toujours fasciné dans la lecture d'ailleurs, c'est cette capacité à donner à l'homme ce qu'il n'aura probablement jamais, à savoir une forme d'immortalité et d'ubiquité en fait. Ça, c'est, et je pense que c'est ça qui fait qu'on adore la lecture, parce que ça nous permet de toucher un pouvoir qui est l'une des quêtes primordiales de l'humanité. Quoi. Les premiers textes qu'on a découverts, écrits, c'est l'épopée de Gilgamesh, sa quête, c'est l'immortalité, et je trouve que la lecture offre ça.
En plus, vous connaissez bien les différents supports, parce que les séries télé, vous en avez écrit un petit peu. Pour vous, il n'y a pas photo entre les supports et les formes d'expression ?
J'ai beaucoup aimé aussi écrire en série télé, et je pense que d'ailleurs mon écriture de roman est aussi basée sur cette espèce d'urgence de la narration, de tenir le lecteur en haleine, d'avoir des cliffhangers, donc des fins suspense à la fin de chaque chapitre. Peut-être qu'aussi, parce que comme j'ai travaillé en télé avant d'écrire des scénarios, je fabriquais des émissions où on sait bien qu'on est soumis à l'audimat et à la capacité à se faire zapper très vite, je pense que j'ai gardé cette espèce de réflexe de vouloir capter l'auditoire au maximum. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai soumis mon premier manuscrit à Ixo, le CRI, qu'ils ont aimé, l'un des conseils que Bernard m'a donné pour que je puisse quand même un peu l'améliorer, il m'a dit « mais prends ton temps, t'es pas en série télé là, t'as le temps d'installer tes personnages, t'as le temps de nous prendre, nous on est dans le livre, maintenant on reste avec toi, t'as pas la crainte qu'on s'en aille, donc prends ton temps ». Et je me souviens que ça m'avait pas mal libéré dans la manière dont j'avais appréhendé mon personnage de Sarah Geringen, inspectrice norvégienne, et j'avais réécrit 50 premières pages en me mettant avec elle dans son quotidien, et elle appréhendait beaucoup plus que ce que j'avais fait dans la première version. Alors 50 pages qui ont disparu au final, mais qui ont été au final distillées dans tout le livre. Voilà. Et je me souviens que ça m'a pas mal marqué. Donc il y a quand même pas la même manière d'écrire entre ces deux formats. Et très honnêtement, on a une liberté d'expression en littérature, dans les romans, que l'on n'a pas du tout dans les séries télé.
Il n'y a pas de cahier des charges.
Non, et je pense que, ça c'est mon analyse, mais je pense que le milieu de la série télé et du cinéma en général fonctionne à la peur de ne pas plaire, à la peur des enjeux financiers, et je crois encore que la littérature fonctionne à l'envie et à l'audace. Voilà. Donc il y a plus de possibilités encore aujourd'hui au niveau des romans.
Alors le Bernard que vous avez cité, c'est Bernard Fixo, c'est le patron d'Ixo, c'est cette maison d'édition qui vous accueille donc depuis déjà quelques années. Alors, le nouveau roman, c'est le dernier message. On va reparler de la passion de l'écriture, de la lecture, et surtout comment vous êtes venu à l'écriture de romans. Je veux qu'on parle de cette nouvelle héroïne, Grace Campbell. Alors, déjà, pourquoi une nouvelle héroïne ?
Parce que je pense que Sarah était épuisée à la fin des trois précédents.
C'est vrai, elle avait fait subir beaucoup de choses physiquement et psychologiquement.
Oui, mais alors voilà, elle a suivi quand même une arche et un cheminement qui fait que j'espère qu'à la fin de L'île du Diable, qui est donc le troisième tome de ses histoires et de ses enquêtes, elle est en partie en accord avec elle-même. Elle a résolu des tas de complications dans sa vie, des nœuds. Et même si le livre se termine sur un choix cornélien, je pense que je l'ai laissé en mesure de faire le bon choix quel qu'il soit. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue d'avoir conduit là où il fallait pour qu'elle soit libre. Donc je pense que voilà, j'avais besoin de changer, et j'ai fait la rencontre de Grace. Alors c'est pas un artifice que de dire j'ai fait la rencontre de Grace, c'est que vraiment ça se passe comme ça. Et comme pour Sarah, je suis tombé amoureux d'elle, et j'entends de manière littéraire, et je suis convaincu qu'il faut tomber amoureux de ces personnages, parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble et qu'on va pas forcément s'entendre aussi bien, que ça va être des moments difficiles, et que si on n'est pas amoureux, on se sépare et il n'y a pas de livre. Donc je pense qu'il faut ça. Et Grace, elle est apparue de manière beaucoup plus... elle est plus en rondeur, elle a plus de failles, on va dire, physiques aussi, par rapport à Sarah, qui était très athlétique et autre. Grace, c'est une ancienne personne obèse qui a eu des problèmes très compliqués dans sa vie, qu'on découvre en filigrane dans le dernier message. Et là, elle remonte la pente, elle va un peu mieux, elle s'est refait une silhouette un peu plus athlétique pour son métier. Mais elle a encore ses ersatz d'une personne qui était soumise à un poids un peu important, mais ce qui fait qu'au final elle ressemble à quelqu'un de normal, tout simplement. Et moi j'avais envie de ça, j'avais envie d'une personne plus accessible, plus en chair, plus empathique aussi immédiatement, mais qui cultive toujours une part de mystère aussi sur son passé.
Ça veut dire que vous avez écrit une sorte de biographie du personnage, déjà, comme pour Sarah, avec ses 50 pages. Il y a une sorte de petite bio cachée que vous pourriez distiller au fur et à mesure d'autres romans.
Je pense que c'est un plaisir des auteurs de savoir que nous, on sait des choses que vous, lecteurs, vous ne savez pas encore. Je pense que ça fait partie de ce plaisir-là. Et aussi de savoir que le personnage lui-même n'a pas encore tout dit, même à l'auteur. Donc c'est bien de se réserver une part de mystère. Je pense que c'est pareil, que c'est une fois encore pareil qu'une relation amoureuse. Je pense que ce qui est excitant aussi, c'est pas tout connaître de l'autre, et de connaître suffisamment de choses pour avoir envie de savoir la suite. Et je pense qu'un des couples qui fonctionne bien, c'est aussi des couples qui ont chacun une partie de vie, une partie d'univers personnel qui n'est pas complètement en symbiose toujours avec l'autre. Et finalement, l'auteur avec son personnage, je pense qu'il y a un peu de ça. Donc oui, je connais une grosse partie de ce qui lui est arrivé à Grace, et de ce qui va lui arriver en partie, mais je n'ai pas encore tous les détails. Voilà. Elle a le droit de ne pas tout dire tout de suite, quoi.
Votre compagne, elle n'est pas jalouse de vos héroïnes ? Oh. Vous m'en parlez comme si vous les connaissiez.
Non, mais c'est pour ça que je dis bien que j'en suis tombé amoureux de manière littéraire. Voilà. Donc je suis pas quand même complètement l'artiste perché. Voilà. Puis en plus, je me vois pas comme artiste, je me vois vraiment comme un fabricant et un conteur. Ouais. Donc non, Caroline, ma femme, est la première lectrice déjà, et elle a ce regard, peut-être que Grace a un peu d'elle aussi, parce que ma femme a un regard assez bienveillant et plutôt enveloppant, et qui fait que pour un auteur c'est très agréable, parce que on est toujours dans le doute au début, hein, quand on écrit on a un peu peur, on a surtout peur du jugement, et je sais que même si elle trouve pas ça formidable, elle saura me le dire comme il faut, et sans que ça me blesse, sans que ça me casse. Voilà, donc moi je suis assez fragile sur les premiers moments d'écriture, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas lire mon manuscrit généralement avant qu'il soit terminé à mon éditeur.
J'ai vu une petite vidéo sur internet où vous écrivez, votre femme et vos enfants essaient de venir essayer de regarder et vous dites non.
Eh oui, bah, alors déjà mes filles elles ont 7 et 9 ans donc il n'est pas question qu'elles sachent. Il n'y a pas question qu'ils sachent. Alors elles ont compris de quoi ça parlait en gros, mais bon, je rentre pas dans le détail et surtout il y a quand même les livres qui traînent à la maison donc de temps en temps elles peuvent voir la quatrième de couve. Et c'est la grande qui m'a dit, Eva, là, qui m'a dit, mais pourquoi il y a toujours des meurtres dans tes livres, papa? Alors, ça paraît simple à expliquer, mais à son enfant de 10 ans, c'est plus compliqué. Mais bon, j'ai réussi à lui parler du mystère, du suspense, etc. Donc ça va à peu près. Et ma femme, non, elle a accès à tout. Mais pareil, ce que je veux, moi, c'est quand j'écris, je pense à quelqu'un. Voilà. Je pense au moins à 2-3 personnes au départ, qui sont mes primo-lecteurs, et c'est pour eux que j'écris au départ. Y a des gens qui arrivent à écrire comme ça pour eux-mêmes, déjà, ou de manière absolue. Moi, j'ai besoin de savoir que ça va être lu, généralement, parfois dans la journée ou le lendemain. Voilà, j'ai besoin de ça. Donc ma femme y a accès, mais pas tout de suite. Voilà, je ne dis pas tout non plus, parce que sinon, j'ai rien à lui raconter, après. Voilà.
Alors, cette première enquête avec Grace, elle nous emmène dans un monastère avec un premier crime, un premier cadavre qui je ne sais pas si on peut raconter dans les détails la manière dont il a été tué, mais c'est très particulier. En tout cas, on est dans un monastère. Moi, j'ai cru qu'on était dans le nom de la Rose, sauf que non, on est bien au XXIe siècle. Ouais. Il existe ce monastère, expliquez-moi un petit peu.
Alors, le monastère qui est sur l'île d'Iona, qui ouvre le dernier message, et dans lequel, comme vous le disiez, on retrouve la première victime assassinée dans des conditions d'une façon effectivement très bizarre, mais une fois encore, ça a beaucoup de sens dans l'histoire et dans l'enquête. Ce monastère existe vraiment. Et il est habité par quelques moines aussi en permanence. Comme là, il y a une communauté qui est très, très restreinte. Il y a cinq moines, et la victime est un pensionnaire qui n'est pas un moine. Et on peut aller visiter ce monastère sur cette petite île qui est au large de l'Écosse.
Vous y êtes allé
Alors ça, je vous dirai après.
Ouais.
Ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est que de ce petit monastère perdu là au fin fond de l'Europe, sont partis les premiers, prêtres qui sont allés évangéliser toute l'Europe. C'est de là que c'est parti, c'est là qu'a été enterré Macbeth, sa tombe est toujours là-bas. Y a le chemin des morts qui mène jusqu'au cimetière avec ces tombes qui sont un peu écroulées d'ailleurs et qui regardent la mer et les falaises. Donc c'est vraiment propice à une imagination assez fertile. Mais ce que j'aimais, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ancrer mes histoires dans l'histoire avec un grand H, et qui est des racines profondes dans notre inconscient collectif aussi. Moi, j'aime ça, j'aime que ça se nourrisse de ça. Et quand vous connaîtrez l'histoire, si vous avez l'envie de lire le livre, quand vous connaîtrez l'histoire, vous verrez que c'est pas pour rien que le crime a eu lieu là-bas, c'est pas pour rien que ce soit ce personnage, et il y a une espèce de boucle qui se termine là-dedans. Donc, après, est-ce que j'y suis allé? Non. Et je cultive cette espèce d'envie de pas aller sur les lieux dont je parle, en fait, généralement. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure, quand j'étais journaliste, que... alors, on parle très bien des endroits qu'on a vus quand on est journaliste, quand on doit les décrire, mais je trouve que quand on est auteur, on parle jamais aussi bien que des lieux que lorsqu'on les a imaginés, en fait. Parce que moi, mon rôle, mon métier, c'est pas de vous décrire l'endroit où vous allez être dans le livre, c'est de vous donner l'impression d'y être. C'est de vous donner la sensation d'y être, c'est de vous sentir les bruits, de vous sentir d'avoir les odeurs, d'avoir les sensations sur la peau, que ce soit d'humidité, de soleil, de chaleur, de tout, c'est ça. Et je crains qu'en allant sur place, on se dit « Ah, ça sent ça, je vais l'écrire et tout, ça, on voit ça et tout », mais ça soit documentaire et pas sensitif. Donc jusque-là, je me renseigne suffisamment pour pas raconter normalement de bêtises. Je vais parfois même me questionner des blogueurs qui sont allés sur place en disant « Voilà, vous avez pris des photos et tout, mais vous m'avez pas parlé de, comme je vous le disais, des bruits qu'on entendait près de la mer. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est pas fort? Est-ce que là, j'ai vu qu'il y avait des plantes? Est-ce qu'on entend les abeilles? Est-ce que... » Voilà, ce genre de détails. Et ça me permet, moi, de construire ensuite quelque chose qui me parle à moi, qui me donne, moi, l'impression d'y être. Et je me dis, si ça marche, alors que j'y suis pas allé, ça devrait peut-être marcher pour les lecteurs. Et pour terminer, le nom de la Rose, c'est évidemment, c'est bien, bah, c'est pas pour rien que vous en parlez, j'imagine, mais moi, c'est mon film préféré. Ça veut pas dire grand chose préféré, mais c'est un film qui m'a profondément marqué à l'âge de, j'avais 15 ans quand je l'ai vu, et aujourd'hui, ça reste mon film le plus fort. parce que ça a été la réconciliation parfaite de l'ambiance, de la narration, du suspense, du jeu d'acteur, et de la philosophie. Et voilà, c'était à la fois très plaisant en termes d'enquête et en même temps très profond en termes de sens sur l'opposition entre le rire et la religion. Et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et d'ailleurs, j'ai interviewé j'ai oublié son prénom, Jean-Jacques Hano, pardon, ouais. Réalisateur, et je vais poser des questions. Et je lui ai dit, mais vous savez, quand même, la première scène d'amour entre Hadzo et la jeune femme dans la cuisine, là, ça m'avait bouleversé. Christian Slater, qui avait 15 ans à l'époque. Ouais. Hein, et il m'a dit, mais vous savez, si ça vous a marqué, déjà, vous n'êtes pas le seul. Il me dit, je vais vous raconter pourquoi. Et bon, il m'a raconté comment s'était passée cette scène d'amour, qui est une scène d'amour authentique en réalité, et qui était la première scène d'amour physique avec Christian Slater, pour Christian Slater.
D'accord.
Et à qui il n'avait pas dévoilé l'intégralité de la scène, et à qui il avait demandé à la comédienne, qui était un peu plus âgée, d'être la meneuse et de mener tout ça. Et il me dit, les sensations étaient réelles, et quand j'ai dit couper, à la fin de la scène, ils sont restés enlacés, et j'ai dû dire couper trois fois pour qu'enfin ils s'éveillent de tout ça. Et voilà pourquoi ça m'a touché. Donc je pense que ce film, au-delà de l'enquête qui est à l'intérieur, m'a aussi beaucoup marqué émotionnellement.
Alors, vous avez mentionné le fait que vous étiez journaliste, on faisait le même métier, Nicolas, et puis tout a changé. Alors, je ne sais pas si c'est du jour au lendemain.
Non,
pas du jour au lendemain, mais c'était bien d'être journaliste ou il vous manquait un truc ?
Non, j'ai adoré ça. Quand j'ai fait une école de commerce, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Et dès les 15 premiers jours de l'école, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de raconter ce qui se passe autour de moi et j'ai envie de le faire savoir aux autres. Je vous passe les détails, mais j'ai fini par être journaliste après mon école. J'ai été journaliste pendant l'école, en fait, déjà. J'ai travaillé au Figaro étudiant en parallèle, j'écrivais le soir, j'allais à l'école la journée, bon. Et j'ai adoré faire ce métier pendant 15 ans. Presse écrite, presse radio, radio, puis après télé, jusqu'à M6, j'ai été présentateur, aussi rédacteur en chef d'autres émissions, j'ai fait plein de choses, directeur artistique, donc je me suis de plus en plus orienté vers la création, c'est ça que j'aimais. Et j'ai jamais voulu, on m'a proposé d'être directeur de chaîne ou de choses comme ça, mais je sentais que j'allais quitter la fabrication et que j'allais pas aimer ça. Mais est venu un moment où la télé m'a demandé de fabriquer des choses dans lesquelles je croyais plus trop, notamment la télé-réalité ou fiction-réalité, on va dire. Et surtout, comme vous disiez, on faisait le même métier, c'est-à-dire que notre truc, c'est de raconter. Sauf que quand on est journaliste, on doit être le plus proche des faits. Bon, voilà, moi, au bout d'un moment, j'avais envie d'être plus libre. Mais c'est le même métier. Les Américains disent « give me a story », donne-moi un art. Et nous, on dit un article, mais c'est une story, après tout. Donc j'avais envie d'avoir cette liberté de conscience, de pouvoir raconter ce que je voulais sans le devoir journalistique d'être proche, d'être dans la vérité le plus possible en tout cas. Donc c'est la même chose en réalité. Voilà. Et d'ailleurs dans mes ouvrages, il reste cette empreinte du journaliste qui a envie de vous raconter autre chose qu'une histoire. C'est-à-dire que je veux du suspense, je veux de l'action, je veux de l'émotion, mais je veux qu'à la fin vous ayez appris quelque chose si possible. Donc c'est pour ça que c'est toujours basé sur des faits réels, historiques, scientifiques, sociologiques, que j'essaye de distiller dans l'histoire. C'est ça.
Dans une fiction.
Ouais, mais c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est de vraiment déjà sentir et trouver un sujet qui soit connu mais pas populaire, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des sujets, j'invente rien, c'est-à-dire qu'ils existent dans le milieu scientifique souvent, ou dans le milieu historique, mais il faut lire des biographies qui ne sont pas arrivées encore au grand public. Et puis on regarde, on se dit, mais c'est incroyable, comment j'ai pas entendu parler de ce truc-là, je suis passé à côté. Et là vient l'envie de le partager. Donc là, ça c'est l'envie du journaliste. Et puis après, l'envie de le partager, mais à travers une histoire, et ça c'est l'envie de l'auteur. Et donc ce qui est très dangereux, c'est d'être passionné par son sujet de fond et d'oublier qu'on doit raconter avant tout une bonne histoire. Et donc c'est l'effort que j'essaye de faire. Et le piège dans lequel je veux surtout pas tomber, et c'est de faire des flashs, des fiches Wikipédia qui sont plaquées entre deux narrations. Donc j'essaye de distiller ça et surtout de tricoter pour que vous n'ayez pas l'impression en fait de lire un documentaire. Mais c'est la même chose en fait, c'est le même principe que la mythologie ou la religion. En réalité, la Bible, c'est des histoires qui sont là aussi pour diffuser des idées. La mythologie grecque, quelle qu'elle soit, c'est pareil, c'est des bonnes histoires pour diffuser aussi des idées, parce que je pense une fois, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la narration, je pense que notre cerveau est fait pour raconter et écouter des histoires. Il est, c'est comme ça qu'il retient. Et c'est comme ça qu'il transmet et qu'il prend du plaisir.
J'ai lu, Nicolas, que pour vous, le passage à l'écriture, ça avait presque été une nécessité physique, psychologique, que vous avez fait un burn-out, et qu'il avait fallu presque... physiquement, il a fallu couper de tout pour arriver à l'auteur que vous êtes aujourd'hui. Comment ça s'est passé exactement ?
Effectivement, ça a été très bizarre et très violent. Ça s'est passé un peu avant la fin de la télévision. C'est-à-dire que après ce burn-out, je suis quand même revenu en télé, mais pendant un peu de temps, avant d'être auteur. Mais effectivement, j'ai écrit un premier ouvrage avant le CRI qui s'appelle Le Premier Crâne, sous un pseudo, qui était un thriller aussi. Et je l'ai écrit... Effectivement, c'est un peu compliqué à expliquer, donc c'est assez intime. Non, mais c'est intéressant. Pendant que je travaillais en télévision, j'adorais ça et je me donnais à 110%. Bon, vint un moment où j'ai comme mon corps à lâcher et je sais pas ce qui m'arrivait, donc j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out et j'ai dû me retirer de la vie, vraiment, pendant... moi, je croyais que ça allait durer 15 jours, ça a duré un an. C'est-à-dire que j'étais devenu agoraphobe, je pouvais plus sortir de chez moi, je pouvais supporter que la nature, la musique classique. Mais je ne pouvais pas regarder un écran, je pouvais à peine lire, je dormais pratiquement plus. Bon, bref, ça a été très très compliqué, et je ne savais pas si j'allais m'en sortir, en fait, parce que je ne savais pas ce qui... J'avais des crises d'angoisse, des tas de choses comme ça, qui étaient sidérantes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre, hein, vraiment. J'étais... Ouais. Et on m'a dit, oui, vous allez guérir, mais on ne peut pas vous dire quand. Et le temps est très 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 long. Et on se dit à un moment, mais... je vois pas d'issue. Et a brillé tout au fond, loin, une espèce de possibilité créative quelque part. C'est-à-dire qu'un jour, autour d'un lac, je me souviens, j'étais tout seul, et est venue cette idée du premier crâne, d'un crâne humain qu'on aurait retrouvé, qu'on daterait, qui serait plus vieux que la dernière espèce humaine connue quand on remonte dans le temps, et donc à qui il appartient, etc. Et cette idée-là... elle m'a permis de tenir parce que je me suis dit, il faut que je tienne pour qu'un jour je retrouve la force d'écrire cette histoire parce que j'ai très très envie de l'écrire. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est l'envie de créer qui a dicté l'envie de peut-être aller mieux, ou en tout cas de me dire que j'avais un projet après. Et je ne savais pas quand viendrait l'après, mais le fait de savoir qu'il y avait un projet, peut-être que ça a accéléré cet après. Donc, ouais, ça m'a vraiment sauvé, je pense, ça. Donc voilà.
Pour vous, c'est la preuve que les gens qui écrivent sont plus heureux, deviennent plus heureux. Le titre du podcast, c'est « Les gens qui lisent sont plus heureux ». C'est la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que pour vous, Nicolas Beuglé, les gens qui lisent sont plus heureux ? Vous pouvez dire non.
Non, je vais pas dire non. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Et c'est une question que je me pose dans le dernier message, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai la conviction que la lecture apporte du plaisir, c'est certain, donc devrait nous rendre plus heureux. Elle apporte aussi de la connaissance et du savoir. Et c'est là que je me pose des questions. Moi, personnellement, le savoir me rend plus heureux. Mais je me pose quand même la question de savoir jusqu'à quel point il me rend plus heureux quand j'en sais peut-être trop sur certaines choses ou je me pose trop de questions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand plus on lit, plus on va avoir envie de creuser et plus on va se rendre compte qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse, alors qu'avant, soit on ne se posait pas la question, soit on se disait « il doit bien avoir la réponse quelque part » et donc on n'était pas inquiet. Et quand on découvre qu'en fait, il n'y a pas des réponses à tout sur l'existence, sur beaucoup de choses, ça peut rendre inquiet et ça peut rendre malheureux. Donc... voilà ma réponse de copie de philosophie avec la thèse, antithèse, et la synthèse, ce serait de dire qu'il faut faire un pari, voilà, et qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est pas le pari pascalien, mais c'est un peu ça, c'est de se dire, moi je fais le pari de croire que ça me rendra heureux, et puis ça devrait marcher.
Mais ce qui est certain, c'est qu'avec vos romans, on n'en ressort pas, on a vu des choses horribles, terribles, mais on en ressort bien quand même, parce qu'on a passé un bon moment et on a appris des choses, et quelque part, on a envie d'y retourner. Donc ça veut dire que ça veut dire que ça fait du bien, même un thriller.
Mais c'est mon souhait, et c'est pour ça qu'il y a une règle que je m'impose à chaque fois, c'est que je déteste les thrillers ou les histoires, quelles qu'elles soient, où on me pose une grande question, on m'apporte pas de réponse à la fin, où on me dit la réponse est en toi. C'est terrible, ça, c'est avec ces grands enjeux. Donc je ne commence jamais un livre sans avoir la fin, et si la fin me paraît bonne, satisfaisante, enthousiasmante, elle va dicter tout le livre, et je vais commencer le livre. Parce que je sais qu'au début, je vais poser des questions, si possible, des grosses questions, et je veux qu'à la fin, vous ayez cette satisfaction. Peut-être que c'est ça qui rend heureux, c'est qu'à la fin, il y a une boucle, c'est qu'on se dit au moins, j'aime ou j'aime pas, mais au moins j'ai mes réponses, et je repars avec mon petit bagage, et je vais pouvoir en faire quelque chose. Je me retrouve pas livré à moi-même avec encore plus de questions, ou en tout cas, j'ai des pistes pour y réfléchir. Donc ça, pour moi, je pense que ça participe du plaisir de lecture que d'avoir un livre bouclé.
Alors, ce roman, je veux dire que c'est le dernier que vous avez écrit avant la pandémie. Oui. J'en parle avec beaucoup de créateurs, pas seulement les écrivains. Mais est-ce qu'à partir de maintenant, on va pouvoir écrire des fictions qui se déroulent de nos jours sans faire écho d'une manière ou d'une autre à ce qu'on est en train de vivre?
Vous devriez écrire, hein, Jérôme, parce que c'est vraiment une question qu'on se pose quand on commence à écrire.
Et, c'est vrai.
C'est vrai, c'est que je me suis posé... Là, je suis en train de réfléchir, effectivement, pour ça. Et je me suis dit, Grèce ne peut pas vivre dans un monde, si ça se passe en tout cas de manière contemporaine, dans un monde où il n'y a pas eu cette histoire-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on s'autorise beaucoup... De liberté dans la narration contemporaine, où on n'est pas obligé de faire allusion à tout ce qui se passe politiquement, etc. Oui, mais là, on se dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on effaçait une guerre mondiale de la narration historique de l'humanité, et puis on se dirait non, ça colle pas, les gens vont pas y croire. Donc, ça va être très intéressant de voir comment chaque auteur va réussir à s'en emparer. Sans que ça soit rébarbatif, sans que les gens aient l'impression qu'on leur replonge le nez dans une période dont on n'est pas sorti et qui n'est pas agréable. Et je pense que ça demande un vrai effort. Et là, je cogite énormément là-dessus, en fait. Sur la manière de...
C'est un casse-tête ?
Oui, parce que moi, j'ai le sentiment que c'est pas agréable et que c'est pas du plaisir de reparler de ça. Et en même temps, je pense qu'on a rarement vécu une époque depuis les 20, 30, 40 ans où on ne s'est pas posé autant de questions sur beaucoup de choses. Où on n'a pas remis en cause autant de... que ce soit la politique, que ce soit la vérité, que ce soit la science, que ce soit la presse, que ce soit notre rapport dans la société à notre voisin. C'est ça qui va être questionné, je trouve. Et puis, on va être obligé, je crois, après ça... De reparler de la manière dont on est gouverné, de la manière dont on se gouverne. Ben ça va aller plus loin que ce qu'on, entre guillemets, une simple pandémie, en fait. Je crois qu'il va y avoir un changement vraiment épistémologique de la manière dont les peuples vont accepter ou pas de se faire gouverner ou pas. Moi, je pense qu'il y a... Voilà, et je sais que moi, je réfléchis autour de ça en ce moment, sur ce phénomène-là, qui en plus touche à notre quotidien, et une fois encore à notre rapport à l'autre. Il y a quelque chose que j'avais pas ressenti, moi, depuis très longtemps, c'est le jugement du regard d'autrui entre ceux qui portent un masque, ceux qui décident de pas le porter, même si c'est hors la loi, pour des raisons qui leur appartiennent, et peut-être qu'eux ont fait beaucoup de recherches et qu'ils sont aboutis à la conclusion que, mais ce n'est pas possible de le dire en société autrement que de dire à la personne qui vient nous dire « Ouais, pourquoi vous portez pas un masque ? Est-ce que vous avez une heure qu'on discute pour que je vous dise pourquoi, par exemple ?» Voilà. Ça va devenir compliqué, en fait, et je crains vraiment une vraie scission. Voilà, c'est là-dessus que je réfléchis en ce moment.
Donc, donc c'est pas exclu que la crise actuelle soit dans votre prochain roman. Ou alors, on retourne dans un monastère et on essaie, parce qu'il doit y avoir des endroits dans le monde où on peut raconter une enquête criminelle et où les gens vivent complètement coupés de ça. Hein.
Mais je me dis que la facilité, ce serait de pas en parler. Ouais. L'erreur, ce serait d'en parler frontalement. C'est-à-dire de redire ce qu'on a vécu, ça n'a, moi ça ne m'intéresse pas.
Qui cherche le coupable.
Ouais.
Qui n'est qu'un pauvre petit pangolin.
Et donc j'essaye de trouver la manière la plus enthousiasmante d'en parler pour une fois encore faire aboutir à quelque... à gravir une petite marche, quoi, si possible, dans la réflexion générale de la façon dont nous, on fonctionne tous. Voilà. C'est ça qui me travaille énormément en ce moment. Voilà, parce que je passe énormément de temps à lire énormément de documents sur cette histoire. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, et jamais j'ai eu à ce point l'impression que l'information ou la vérité me glissait entre les doigts, quoi.
Avec cette idée aussi, que cette impression que l'actualité est plus folle que la fiction.
Bah,
non.
Oui.
La rejoint, ça c'est sûr, mais qu'elle prend des tournures tout d'un coup dignes de. Alors c'est peut-être aussi la façon dont, là je fais l'autocritique de mon métier, mais nous, dans l'information, on aime bien créer des rebondissements tous les jours et nourrir le truc.
Bah bien sûr.
Mais là, on a l'impression qu'on est dans un bon thriller, il y a un cliffhanger tous les jours, non, Nicolas ?
Oui, mais c'est pas ça que j'ai envie d'utiliser, moi, justement. Je veux absolument m'éloigner de ça pour créer du cliffhanger sur plutôt la manière de réfléchir à ce qui se passe là. Plutôt que de refaire la narration de notre quotidien. Mais ça va être très difficile parce qu'il faut à la fois être dedans pour comprendre et en même temps être à l'extérieur pour essayer d'en tirer des conclusions. Donc je vais pas plus m'avancer aujourd'hui, mais je sens qu'il y a quelque chose de très très intéressant à raconter sur ce qui se passe là. Ouais, vraiment très intéressant. Et une fois encore, quand on a des enfants qui sont jeunes, on sait que le monde va pas être pareil pour eux. Et alors que, en fait, en tant que parents, on les a préparés à un monde qui ressemble à peu près au nôtre, ou en tout cas dont on pouvait anticiper les changements. Et là, quand je les regarde, je me dis, mais est-ce que je me suis pas gouré avec ma femme ? Est-ce qu'on se trompe pas sur la manière dont on va les armer ? Parce que quelque part, en tant que parents, c'est aussi notre rôle pour le monde d'après. Est-ce que j'ai bien compris ce qui allait se passer ? J'avais l'impression de savoir avant, plus là. Donc voilà, il faut que j'utilise mes outils d'auteur pour explorer ça.
Écoutez, je vous propose qu'on parle de toutes ces questions dans un autre épisode, dans un an ou deux, on verra. J'ai l'impression que dans un an ou deux, ce sera passé tellement de trucs.
Je pense pas me dire bêtises en disant que ça aura tout changé.
Ok, ben merci beaucoup Nicolas pour ce petit moment.
Au plaisir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !